Insécure, épisode spécial, je suis accompagné de Dimitri. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour à tous. Donc, oui, enchanté, Nicolas Loïc. Donc, Dimitri, moi, j'ai une histoire particulière parce que j'ai commencé ma carrière en France, puis j'ai passé ensuite 10 ans au Québec. Et maintenant, je suis en direct là, de la Nouvelle-Zélande, où je suis établi depuis environ 7 ans. Et j'ai ma propre business ici. Donc, je suis super heureux aujourd'hui de vous partager un peu mon histoire puis mon parcours.
Oui, justement, là, aujourd'hui, on s'intéresse principalement à la Nouvelle-Zélande parce que pour moi, principalement, puis j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est un écosystème de la cyber qui est peu connu puisqu'on est généralement inondé par l'écosystème américain, un peu local, puis un peu de l'Europe aussi. Pour ceux qui sont en Europe, cet écosystème-là. Mais celui, pour moi, c'était à l'autre bout du monde. C'est littéralement là, de façon que c'est très, très loin. Connaît peu, on en entend peu parler. Pour nous, c'est quand même le Commonwealth, pour le Canada. C'est quand même cette partie de cet assemblage de pays qui ont été colonisés par les Britanniques il y a longtemps. On a cette espèce de lien commun-là. Mais au-delà de ça, arrête. Fait que j'aimerais ça t'entendre parler un peu de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui t'a amené à aller là aussi, parce que t'as quand même fait... France, Québec, et ensuite t'es allé faire un mouvement vers l'ouest tranquillement. Et qu'est-ce qui t'a amené spécifiquement en Nouvelle-Zélande?
Oui, exact, tout à fait, oui. Donc, la Nouvelle-Zélande, déjà, pour situer un petit peu, beaucoup de gens connaissent davantage l'Australie, qui est un peu notre voisin, notre grand voisin à l'ouest. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est assez petit, c'est deux îles, on parle de 5 millions d'habitants. Moi, j'habite sur l'île du Sud, c'est 1 million d'habitants. Alors, juste pour comparer, le Québec, c'est 8 millions d'habitants. Puis je pense qu'il y a deux fois plus d'habitants à Montréal, juste à Montréal, que sur toute l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est sûr qu'on peut imaginer que le marché, la cybersécurité, etc., il est un petit peu plus petit aussi. Puis c'est tout à fait vrai. Moi, je suis pas allé en Nouvelle-Zélande pour... l'expertise en cybersécurité ou pour un client en particulier. J'y suis allé pour le style de vie. Vraiment, on se sent ici beaucoup moins, je dirais, inondé par tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Puis on peut beaucoup prendre, je pense, beaucoup plus prendre du recul aussi sur ce qui se passe dans le monde. Moi, je trouve que c'est super intéressant de travailler en Nouvelle-Zélande, mais aussi de travailler depuis la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est un petit peu ça que j'aime bien. Moi, concrètement, quand je ferme mon ordinateur à la fin de ma journée, je peux vraiment déconnecter. La nature, l'environnement ici est incroyable. Puis c'est ça qui m'a attiré, puis qui m'a fait rester ici avec ma famille depuis déjà quand même plusieurs années. Donc,
intéressant, ouais. Puis le style de vie, c'est pas pour rien, surtout avec une jeune famille comme la tienne, c'est d'autant plus important d'avoir un climat favorable pour pouvoir justement passer du temps et de pouvoir progresser là-dedans aussi, au-delà du travail. Là.
C'est ça, exact. Puis je te dirais avec ce qui s'est passé avec la pandémie, puis la transformation des façons de travailler à distance, moi j'ai gardé beaucoup, beaucoup de liens avec que ce soit le Québec, le Canada, puis aussi l'Europe. Ce qui m'a amené finalement, il y a 3-4 ans, à créer ma propre business. Donc la société Co-Resilium, dont je suis le propriétaire. Et en fait, depuis la Nouvelle-Zélande, je suis capable de travailler avec des clients un peu partout dans le monde, avec cette prise de recul, je dirais. Puis ça m'arrive, hein, on est un petit peu au bout du monde, mais aussi on est un peu au centre des fuseaux horaires. Ça veut dire que le matin, je suis capable de travailler avec des clients en Amérique du Nord, la journée sur toute l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et puis je dirais les pays un peu plus de l'Asie, du Pacifique. Puis en soirée, je suis capable d'appeler mes clients en France, par exemple. Donc ça peut faire des bonnes journées. Je fais pas ça tous les jours. Mais je dirais que ma façon de travailler ici, c'est beaucoup ça aujourd'hui. C'est me dire que depuis la Nouvelle-Zélande, je suis capable d'offrir mon expertise à différentes entreprises qui ont besoin de ce recul aussi, qui ont besoin de cette prise de recul, puis d'amener les bonnes réflexions sur des stratégies en cybersécurité, gouvernance, etc.
Oui, et revenons justement à la Nouvelle-Zélande, qui est un peu l'objectif de ce qui est un peu moins bien connu, ce que du moins pour moi. Un, c'est bon, t'es d'aller là pour la qualité de vie. Et naturellement, tu as dû observer l'écosystème local de la cyber, commencer dans l'environnement autour, parce que c'est la Nouvelle-Zélande, ouais. C'est un petit morceau, parce que l'archipel, si on considère l'Australie dans tout ça, c'est quand même un environnement spécifique qui est très différent.
Oui, c'est ça, exact. En fin de compte, on est en Nouvelle-Zélande, on est dans le Pacifique finalement. Donc on est très proche de l'Asie. Par contre, les pays qui nous entourent, donc les grands marchés, donc l'Australie notamment, et aussi certaines autres îles de la Polynésie, on n'est pas loin de Samoa, Tonga, Fidji, les îles Cook. On a aussi la France hein, qui est pas loin, avec la Nouvelle-Calédonie qui se situe juste au nord de chez nous. On a un petit écosystème ici. Puis je dirais que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, finalement, oui, c'est dans le Pacifique, mais c'est quand même très britannique. C'est exactement ce que tu disais. Il y a énormément de projets qui se font avec que ce soit l'Amérique du Nord, mais aussi la Grande-Bretagne. L'écosystème, il y a énormément de mouvements qui se font. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges entre le Québec et la France, par exemple. Proximité linguistique et culturelle, ben on a le même phénomène ici entre Nouvelle-Zélande et UK, en fait, la Grande-Bretagne. Beaucoup, beaucoup de gens qui naviguent entre ces pays-là, qui ont des clients, etc. En fait, beaucoup de gens font comme moi, travailler pour des entreprises et exporter leurs services ou leurs produits. Maintenant, l'écosystème local, ça dépend. Faire affaire avec les îles de la Polynésie, par exemple, c'est particulier, c'est pas des gros marchés. Samoa, Tonga, Fidji, les îles Cook, etc. On va parler plus de gros besoins dans les opérateurs de télécom, énergie, infrastructures essentielles. Ils peuvent être victimes aussi de cyberattaques, qui sont exposés comme n'importe quelle entreprise. Donc, il y a des besoins aussi de résilience, étant donné qu'on est un petit peu plus isolé. Ici, c'est important que nos infrastructures soient bien résilientes aussi et qu'on ait les compétences locales et les solutions pour s'en sortir s'il devait y avoir des interruptions de services, cyberattaques ou désastres naturels aussi. Donc, c'est un petit peu ça, oui.
Puis tu parlais aussi un peu de l'Australie. L'Australie est le plus grand marché, donc ça aura une influence sur la culture, notamment sur la sécurité de l'envie de toutes ces îles-là. Tu parles de beaucoup de petites îles. La Nouvelle-Zélande est probablement la plus grande des petites îles. Donc, il doit avoir un effet. L'Australie doit avoir quand même une ascendance sur cette culture-là aussi.
Oui, c'est sûr, exact. L'Australie, c'est 26 millions d'habitants. C'est un beaucoup plus gros marché. Je te dirais, comparer l'Australie à la Nouvelle-Zélande, c'est comme comparer un peu les États-Unis et le Canada, par exemple. Au Canada, vous avez votre voisin du sud, les États-Unis. Nous, on a notre gros voisin de l'ouest qui est l'Australie. Et l'Australie a cette culture qui est beaucoup plus américaine, je dirais, avec des grosses infrastructures dans l'exploitation pétrolière, le gaz, les mines aussi, beaucoup d'exploitation minière, etc. Donc, ils ont des gros besoins à ce niveau-là. Et c'est sûr que... Premièrement, il faut comprendre que toute personne qui est citoyen de la Nouvelle-Zélande peut travailler, rester librement en Australie. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se former en cybersécurité, par exemple en Nouvelle-Zélande, mais qui vont après avoir leur première expérience professionnelle plus dans des pays comme l'Australie, parce qu'il y a plus d'opportunités. Donc, c'est sûr que je dirais que beaucoup de gens vont en Australie pour pouvoir avoir des projets plus gros, plus intéressants, etc. Et quand ils ont un certain niveau d'expérience, certains reviennent en Nouvelle-Zélande pour s'établir pour leur famille ou le style de vie qu'on a ici, qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax finalement que ce qu'on a en Australie. Dépendamment, bien sûr, de ce qu'on a envie de faire, des attentes qu'on a de la vie, c'est sûr. Mais évidemment, oui, on a cette grosse influence de l'Australie. Je pense qu'il y a un Néo-Zélandais sur cinq, de toute façon, qui vit à l'étranger. Donc, qui vit en dehors du pays. Donc, il y a toujours eu ce brassage. Et oui, c'est sûr qu'il y a quand même de la coopération énormément entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, échange des compétences, mais aussi de la coopération d'un point de vue des écosystèmes, cybersécurité, etc. Quand on a des conférences ou des événements ici, il y a beaucoup de gens qui font le déplacement entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est sûr que c'est assez relié. Évidemment.
Oui, puis de cet écosystème-là, là, tu as mentionné des événements. Qu'est-ce que ça ressemble? Il y a des communautés locales. Est-ce qu'ils ont des événements établis depuis longtemps qui sont des porte-étendards de la réalité régionale? Ou vous allez plus en Asie, plus loin, vers le Japon, la Chine ou même l'Inde, à la limite, qui sont quand même de très grands marchés ou de très grandes présences? Est-ce que vous avez vos éléments locaux, notamment Nouvelle-Zélande, mais probablement l'Australie aussi comme étant plus gros?
Oui, c'est sûr. Il y a quand même des firmes assez importantes ici qui d'ailleurs vont être sur les deux marchés, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui vont vendre des services de cybersécurité, de SOC gérés, évidemment faire du pentesting. On va retrouver des firmes effectivement qui sont établies un peu sur les deux. Mais aussi, on a beaucoup récemment d'immigration également des États-Unis, de façon intéressante aussi, Canada et Europe, de gens qui viennent s'établir ici et qui continuent à occuper des postes ou des rôles en cybersécurité pour des compagnies américaines. Je pense par exemple à GitLab, je pense par exemple à Canva ou d'autres qui sont... c'est intéressant de voir, de rencontrer des fois dans une conférence ici en cybersécurité, là, de rencontrer des personnes qui sont, oui, qui vivent en Nouvelle-Zélande, mais finalement qui travaillent encore pour leur firme aux États-Unis ou en Europe, qui travaillent juste d'ici, mais finalement ils alimentent l'écosystème en s'établissant ici. Alors on va retrouver une conférence qui est très connue, hein, qui s'appelait le KiwiCon. Par exemple, à Wellington, une conférence qui est quasiment un show, c'est vraiment intéressant comme événement. Le KiwiCon est devenu KawaiiCon maintenant. Et là, ça va se passer en novembre, début novembre de cette année à Wellington. Et il y a une ambiance qui est toujours assez intéressante, je trouve, dans ces événements-là. La Nouvelle-Zélande, là, c'est un pays où il y a quand même différentes cultures, différents horizons de personnes. On va avoir des gens, comme je disais, qui viennent de UK, États-Unis, Canada, mais aussi on a beaucoup de gens qui viennent de l'Inde, de la Chine, qui vont immigrer ici. Et ça amène comme une sorte de mélange culturel et on retrouve dans les conférences des gens qui ont des backgrounds, qui ont des horizons assez différents. Ouais. C'est un pays qui a été, la Nouvelle-Zélande, colonisé beaucoup plus récemment que le Canada, par exemple, ou les États-Unis. Donc on retrouve ce mélange ici assez intéressant. Puis plus proche de moi, sous l'île du Sud, on a le SHCON, le Christchurch Hacking Conference. C'est aussi un événement qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve comme le Hackfest à Québec ou le Secure par exemple. Et c'est intéressant, ils ont fait il y a quelques années le SHCamp, le CH Camp. Donc c'était vraiment un summer camp, donc un camp d'été. Autour de la communauté cyber, etc. Donc, on s'est retrouvés à Hamner Springs, c'est à une heure de Christchurch, finalement, dans des paysages de toute beauté, à camper, à faire griller des marshmallows, à faire des conférences au coin du feu. C'était une ambiance très particulière. Je trouvais ça un concept assez intéressant. Une conférence où les gens se retrouvent finalement en sorte de camp. C'était je trouvais que c'était une ambiance très 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 spécifique, très très particulière. Ouais.
C'est super intéressant justement cette variété là, puisqu'on a peu à l'extérieur de, parce que moi je pense un ou deux événements que je connais qui font ça à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande en l'occurrence, hein, mais c'est plutôt c'est intéressant que cet esprit communautaire là soit s'exprime de cette façon là. C'est de tisser des liens un peu plus forts entre les membres de la communauté.
Oui, exact. Ouais. Et puis, il y a la culture qu'on va appeler insulaire, puis aussi le rapport au risque qu'il y a ici, hein, est assez différent. Il faut comprendre que ouais, c'est en Nouvelle-Zélande, on a un peu comme dans les différentes îles, en fait, on se sent à la fois un petit peu loin des événements, des grands événements géopolitiques. Bon, il n'y a jamais eu de guerre en Nouvelle-Zélande. Sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, il n'y a jamais eu de guerre dans l'histoire. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et autres, ça n'a jamais existé ici. Alors bien sûr, les troupes de Nouvelle-Zélande ont combattu aux côtés là, des alliés, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment d'événements sur le territoire. Puis on n'a pas de Bush qui veut nous, nous, nous tuer aussi comme en Australie. Parce que l'Australie, par exemple, il y a vraiment des risques historiques. Là, quand les personnes sont arrivées, il y avait des serpents, il y avait des partout où on va en Australie, il y a quand même, dans le bush, il y a des insectes et des dangereux, je dirais. C'est une réalité, là. En Nouvelle-Zélande, pas du tout. C'est complètement différent. C'est un peu comme à Hawaï, finalement. On n'a pas de prédateurs, on n'a pas de serpents, on n'a pas tout ça. Donc les gens, quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas cette notion de risque ou d'avoir peur de quoi que ce soit. Et ça se ressent encore beaucoup sur des risques beaucoup plus modernes comme des cyberattaques et autres. Les personnes ne se sentent pas trop menacées ici. Alors c'est bien pour la sérénité, je dirais, mais d'un autre côté, c'est pas bien parce qu'ils sous-estiment la menace. C'est sûr que... La menace, elle existe pareil. Là, c'est pas nos frontières qui nous protègent. Évidemment, les cyberattaques, c'est même si on est entouré d'eau et qu'on est isolé dans le Pacifique, ça, évidemment, que les cyberattaques connaissent pas de frontières à ce niveau-là. Donc, puis ça m'amène le côté communautaire aussi, c'est que les gens n'ont pas cette notion du risque qui est aussi élevée qu'on va avoir dans d'autres pays. On a quand même un risque géologique qui est important, un risque sismique. On peut avoir des tsunamis, on peut avoir des événements météorologiques, on peut avoir des tremblements de terre, qui fait que j'ai trouvé de façon très intéressante, les entreprises sont très préparées. Autant le risque cyber, il sous-estime un petit peu, mais autant le risque d'interruption de leur système informatique, etc. Est très géré, en fait, ici. Les personnes ont toutes 72 heures, enfin, beaucoup de gens ont 72 heures de provisions à la maison en cas de problème, mettons, exemple, un tremblement de terre, etc. Et ça se ressent dans les entreprises aussi. Beaucoup de gens ont très tôt adopté des technologies comme Starlink, ici, ou d'autres, pour essayer de s'assurer que s'il y a une coupure des liens de télécommunication, une coupure électrique, ils puissent faire face, en fait, à la situation. Donc, je trouve qu'ils ne sont pas très bons sur la gestion du risque de cyberattaque. Par contre, ils sont assez bons sur tout le volet continuité des activités, réponse en cas de désastre. Donc, et on sent que quand il y a un désastre ici ou quand il y a un événement, tout le monde veut aider aussi. Il y a une certaine communauté qui se rassemble à chaque fois. Je pourrais te raconter quelques histoires là-dessus, mais c'est un sentiment assez particulier ici, ouais. Il y a un grand sentiment d'appartenance et de devoir faire face ensemble à des problèmes, quoi.
Ouais, c'est très intéressant. Puis moi, j'ai accroché sur le point que la culture du risque, étant donné que la Nouvelle-Zélande n'a pas connu de guerre et c'est pas un environnement hostile. Ça, je trouve ça parce qu'en Australie, tout veut te tuer, là. C'est pas un environnement qui est favorable à la vie humaine, mais on s'y est installé pareil. Le Canada aussi, pour moi, est un pays qui n'a pas connu la guerre comme l'Europe a connu la guerre, notamment, parce qu'on a connu les deux grandes guerres. Parce que si les États-Unis ont connu la guerre de sécession, qui a quand même assez qui réactait régulièrement, donc pour eux, c'est un souvenir historique très important, ils le revivent. Au Canada, on n'a pas vraiment ça, ces éléments-là, dans lesquels on a envoyé des soldats en Europe pour les grandes guerres. Mais on ne s'est jamais fait attaquer sur notre territoire. J'aimerais avoir ton point de vue sur la différence ou les similitudes qu'on peut avoir entre le Canada et la Nouvelle-Zélande sur cette espèce d'esprit un peu, je dirais, naïf à certains égards face au risque cyber. Puis moi, je le vois beaucoup. Puis surtout quand je parle beaucoup avec mes homologues européens, notamment, ce clash de culture est important. Fait que je vais voir si on partageait cet élément-là avec la Nouvelle-Zélande.
Oui, il y a une certaine similitude. C'est-à-dire que, un peu comme au Québec aussi, ou au Canada en général, ici en Nouvelle-Zélande, les gens font très confiance aussi. Très confiance quand il y a un appel pour faire changer un numéro de banque, de compte en banque, un mail de phishing, des appels frauduleux, etc. Les gens se tombent assez facilement dans le piège aussi. D'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu 25% de hausse sur des pertes suite à des scams, fraudes, phishing, etc. L'année passée, le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, il y a 25% de hausse sur des fraudes et des pertes. parce que les gens font confiance, parce que les rapports humains sont très simples, il n'y a pas de méfiance comme on va retrouver dans d'autres cultures. Et donc, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, quand on a des personnes malveillantes en face qui exploitent ça, bah, c'est une mauvaise chose, finalement. Je suis assez partagé sur la situation. Quand on a des gens qui viennent nous visiter ici du Canada, des États-Unis, dans des conférences, des événements, etc., ils disent bah, « vous êtes naïfs, mais s'il vous plaît, gardez ça. Gardez ça dans votre pays, gardez-le. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde encore où on a ce luxe, cette chance d'avoir un peu de naïveté, puis se dire « bon, ici, on est tranquille, puis on est loin de tout, puis rien ne peut nous arriver ». Donc c'est bien, mais d'un autre côté, face à des attaques modernes, des pays qui veulent s'en prendre aussi au Commonwealth, etc., c'est pas une bonne chose. Donc il faut être capable d'éveiller un petit peu l'attention à ce niveau-là. Mais oui, moi j'ai retrouvé ça aussi au Québec également. Le fait de dire que bah, non, nous on n'est pas une cible, on n'est pas ciblé, on n'est pas susceptible à ça, mais en fait, c'est un peu une fausse impression.
Oui, absolument. Donc, tu rencontres les mêmes défis de sensibilisation locale qu'on peut rencontrer au Québec ou au Canada où on essaie de faire passer le message et les gens sont juste peu réceptifs à ceux-ci parce que ça interpelle rien dans leur mémoire collective ou dans leur appréciation du risque qui se fait en ce sens-là. En même temps, particulièrement en opposition face à la préparation à des intempéries ou à la non-disponibilité dans laquelle c'est une réalité. Mais clairement, mais y a-t-il des trucs que vous avez développés ou vous êtes prêts un peu comme nous à essayer de susciter la peur?
Oui, ben ça, en fait, le schéma classique, c'est faire peur aux gens pour essayer de les faire réagir. Mais en fait, ça a une certaine limite parce qu'on ne prend pas des bonnes décisions en faisant peur aux gens, finalement. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est peut-être plus faire le lien avec ce qu'ils connaissent. Donc, j'ai des clients ici, par exemple, je leur dis, vous voyez, une cyberattaque, c'est comme un séisme. On peut pas prédire quand ça va se produire. On peut pas prédire la localisation exacte dans votre environnement, ni la magnitude, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un événement qu'il faut... La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous préparer, parce que je peux pas vous dire quand, comment et à quelle puissance ça va arriver. Donc, il y a une grande incertitude. Et en fait, je pense que... Et en fait, on peut prévoir... Hein, mais ici, la géologie est très active. On peut prévoir l'éruption d'un volcan. On peut prévoir un tsunami. On a des systèmes d'alerte sur Auckland, par exemple. Bon, les volcans sont surveillés. Les tsunamis, on est capable de prévoir au moins le temps d'évacuer. Minimum 10-15 minutes, mais jusqu'à des fois une demi-journée, etc., dépendamment où ça se produit. Mais par contre, un tremblement de terre, c'est impossible. Un séisme, c'est un événement qui n'est pas prévisible. Il n'y a pas de modèle pour dire dans 3 heures, 6 heures, il va y avoir un séisme de telle magnitude à tel endroit. Et en fait, c'est comme une cyberattaque. On ne peut pas prédire quand est-ce que ça va arriver. Une attaque de ransomware, c'est peut avoir un acteur qui persiste dans l'environnement, on ne l'a pas vu, etc. C'est un peu comme une faille, en fait, comme une faille sismique. Hein, c'est la même chose. Et quand ça va être exploité, quand ça va craquer, bah, finalement, il va y avoir un événement, puis l'impact il va être important. Exactement comme une attaque de ransomware. Donc j'essaie de leur ramener un petit peu ces parallèles-là pour leur faire comprendre. Par contre, c'est ça c'est efficace, je trouve. Essayer de ramener ça avec le risque naturel. Ouais.
Ah, c'est intéressant de le ramener comme ça. Malheureusement, je ne peux pas vraiment réussir ça au Québec parce qu'on n'a pas cet élément-là. Mais non, je trouve ça intéressant parce que de ramener ça sur des éléments comme ça qui nous permettent justement de d'éveiller les consciences par rapport à ça. C'est vraiment chouette. Puis la relation, puis là, je reviens sur la relation avec l'Australie, parce que dans le fond, moi, je le vois un peu, la même relation que le Canada et les États-Unis, étant même, tu disais, en termes de proportion, en termes de volume, puis en termes de culture aussi, puis culture de risque, puis ainsi de suite, c'est un peu la même chose, j'imagine, la différence entre Canada, US, Australie, Nouvelle-Zélande.
Oui, c'est ça, exact. Il y a quand même des différences. Hein. L'Australie n'est pas les États-Unis, la Nouvelle-Zélande n'est pas le Canada. Par contre, en termes de rapport, oui, c'est un petit peu... Bon, c'est sûr que les événements politiques récents qui se passent aux États-Unis ont changé beaucoup de choses récemment. On ne peut pas commenter tout de suite parce que c'est quand même encore récent. Donc, c'est évident. Par contre, l'Australie va davantage s'aligner, en fait, sur les États-Unis. En termes de politique, en termes de certain nombre de choses, mais encore une fois, c'est une situation qui évolue rapidement, donc et puis qui est assez imprévisible. L'Australie a quand même a des ambitions militaires aussi, a des ambitions sur l'exploitation minière, sur un certain nombre de choses, de marchés. En fait, l'Australie a aussi des ressources à protéger qui sont importantes. Ils ont des grandes ressources naturelles, ils ont des choses à protéger, ils ont raison de les protéger. En Nouvelle-Zélande, finalement, on a moins de choses à protéger. On n'a pas on n'a pas d'infrastructure, comment dire, de ressources naturelles. Nos seules ressources naturelles ici, c'est l'eau, c'est l'environnement qu'on veut protéger finalement. La Nouvelle-Zélande a une armée qui est quasiment négligeable aussi. On compte un peu sur les États-Unis pour nous protéger. C'est là que je fais le parallèle avec le Canada et États-Unis. C'est qu'en gros, ici, on n'a pas peur de trop être attaqué parce que, premièrement, on n'a pas des ressources stratégiques tant que ça à protéger. Mais d'un autre côté, on sait qu'on peut compter sur l'Australie si ça devait arriver. Il y a des alliances qui se font, etc. Donc, on a un peu cette relation de dépendance aussi par rapport à eux. Et finalement, c'est un peu ça la relation qu'il y a. Donc, un peu ce qu'on retrouvait comme relation entre Canada et États-Unis aussi, sur les dépenses militaires, mais c'est des choses qui changent très rapidement. Enfin, on le sait tous, hein, donc c'est à surveiller. Maintenant, géopolitiquement, il faut comprendre que la Nouvelle-Zélande est très neutre. Il se trouve qu'on est membre du Commonwealth, puis tu l'as bien dit. Canada, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. On fait partie aussi avec les États-Unis des Five Eyes. Donc il y a beaucoup de partage d'informations sur des menaces, sur des risques, des bulletins de sécurité, les CERT, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se font entre les pays. Par contre, il se trouve que la Nouvelle-Zélande, on a un énorme client. En fait, notre plus gros client avec qui on fait beaucoup d'argent, c'est la Chine. Au niveau commercial, la Nouvelle-Zélande exporte énormément en Asie, énormément de produits agricoles, laitiers, etc., du beurre, du lait, etc. Donc, mais c'est notre premier client. Donc autant on va voir au Canada, aux États-Unis, que la Chine exporte beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus acheter à la Chine que ce que nous on leur vend. Ben ici, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on vend beaucoup plus à la Chine que ce qu'on leur achète finalement. Donc c'est sûr qu'en ayant un gros client comme la Chine, eh bien ça change un petit peu les relations. Alors la Nouvelle-Zélande a une position un peu à la fois unique et un petit peu particulière, parce que oui, on est membre du Commonwealth historiquement, oui, on s'aligne sur les politiques de défense, etc. Mais d'un autre côté, on a un gros client qui est la Chine, et puis on ne veut pas fâcher notre client, quoi. Donc ça met la Nouvelle-Zélande dans une position à la fois intéressante, économiquement parlant, mais aussi une position un peu délicate d'un point de vue géopolitique, etc. Alors c'est pour ça qu'ici, concrètement, comment je le ressens, c'est très simple. C'est que quand je vais au Canada ou aux États-Unis, on a une attribution qui est très rapide sur des cyberattaques, en disant là c'est la Chine, là c'est la Russie, etc. Les entreprises maintenant, publiquement, les États vont dire on a des ennemis, puis c'est eux qui font qui nous attaquent, etc. Ici en Nouvelle-Zélande, on va jamais entendre ça, très rarement. Certains le font, mais c'est beaucoup plus rare. C'est très rare qu'on entende que ce genre de discours sur l'attribution. C'est beaucoup plus neutre, en fait, beaucoup plus neutre à ce niveau-là. C'est ça la grande différence, je pense.
Oui, c'est intéressant parce que en plus, l'Australie et la Chine ne sont pas nécessairement aussi bien alignés clairement que la Nouvelle-Zélande. Je sais qu'il y a eu quelques frictions qui ont apparu dans les journaux internationaux. Fait que j'imagine que si ça se rend à l'international, ces frictions-là ont quand même une certaine importance. Ouais. Cette position-là, puis en cyber, ça doit être très compliqué puisque vous habitez à côté de ce que pour l'Occident en général, on perçoit comme étant une menace assez importante, ouais. Comme tu mentionnes, qui est souvent pointée du doigt pour de bonnes et de mauvaises raisons, parce que l'attribution sert aussi un jeu politique, malheureusement, ouais. Parce que là, ça vient dévier un peu les choses. Puis là, tu parles que la Nouvelle-Zélande se garde de le faire, puis c'est correct aussi, parce qu'il y a une relation commerciale associée. Ça doit être complexe aussi quand on arrive dans le réel, parce que n'importe quel gros État, puis les États-Unis aussi sont là-dedans, le Canada aussi, vont espionner, vont agir ailleurs aussi. De trouver dans un environnement comme ça doit être particulier en termes de jongler avec toute cette complication-là, si on veut.
Oui, effectivement. C'est sûr que ça amène des défis. Maintenant, ici, les gens sont assez pragmatiques. Ils travaillent fort aussi à exporter leur technologie. Donc, c'est sûr qu'ils exportent des produits agricoles avec l'Asie beaucoup. Mais aussi, il y a beaucoup de startups aussi ici et beaucoup de technologie qui est développée dans l'aérospatiale, dans certains secteurs aussi, en technologie et autres. Et eux, ils exportent aussi en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Donc, c'est-à-dire que c'est pas... on va dire que dans la tête des gens, ils font la part des choses entre la politique internationale puis les vraies affaires de cyberattaque, etc. C'est sûr qu'il y a un lien entre les deux. Mais disons que c'est moins présent dans la tête des gens, ouais. Dans la décision qu'ils prennent, etc. Pour eux, c'est se préparer à faire face à un risque. Maintenant, peu importe d'où il vient, l'idée c'est de faire face à ce risque-là. Puis après, la question qui se pose aussi, c'est qui sont les ennemis. On a peut-être des ennemis d'un point de vue militaire, mais aussi on a peut-être des ennemis d'un point de vue économique. Et les États-Unis, par exemple, sont dans une guerre commerciale super importante. Donc là, la question, c'est comment on peut, en tant que petite île du Pacifique, travailler fort, je dirais, puis essayer de tirer notre épingle du jeu. En fait. Puis des fois, le fait d'être un petit peu plus petit, ça nous met sous le radar. Et en fait, ça permet d'avancer avec plus de sérénité. Mais c'est des situations qui sont en évolution. Ça, c'est un peu le côté idyllique que je te dis. On est plus petit, on n'intéresse personne, on a des bonnes relations avec différents pays, donc on est très content. D'un autre côté, il y a une théorie qui est beaucoup plus un petit peu plus, je dirais, sinistre, hein, qui est que la Nouvelle-Zélande pourrait être un point d'entrée pour un acteur malveillant pour entrer dans le Commonwealth. Donc, en attaquant un peu comme une soft target, si tu veux. Une cible un peu molle qui pourrait donner qui pourrait faire qu'on pourrait pivoter d'un pays comme la Nouvelle-Zélande pour attaquer des pays dont la Nouvelle-Zélande a des alliances avec. Donc ça c'est l'autre théorie, et c'est vrai que je pense qu'il faut être vigilant, il faut pas être naïf non plus, mais ce sont toujours des discussions. Alors j'ai assisté à une conférence en cybersécurité, enfin à une table ronde, c'est très intéressant ici. Il disait, est-ce que la Nouvelle-Zélande pourrait pas être une preuve de concept pour un groupe cybercriminel qui irait attaquer l'infrastructure essentielle, par exemple électricité et autres, pour ensuite regarder un peu comment la réaction et comment ça se passe, pour après préparer une attaque beaucoup plus grande vers des pays comme les États-Unis ou le Canada, par exemple, ou l'Australie. Est-ce que ce ne serait pas un terrain de jeu, finalement ? Alors ça, c'est une théorie qui est un peu discutée, Alors, ce que je pense, c'est peut-être, ça pourrait être un scénario possible. Mais de notre côté, je ne pense pas que la Nouvelle-Zélande soit non plus une soft target tant que ça. Parce qu'il y a des bonnes compétences ici, qui viennent aussi beaucoup de l'étranger, comme moi, par exemple, qui arrivons de l'extérieur, qui amènent des compétences. Il y a quand même des très bonnes choses qui se font ici dans l'écosystème. Je pourrais en parler un petit peu là pour aider les entreprises. Donc, on n'est pas tellement une soft target. Puis, je pense aussi, en cas d'attaque, il faut comprendre qu'on est un pays quand même qui est beaucoup plus petit, qui est un peu plus simple aussi au niveau de sa juridiction et tout. Et à mon avis, ça serait un avantage aussi pour faire face à des attaques d'envergure. Donc, c'est pas tant une soft target que ça, la Nouvelle-Zélande. Mais par contre, faut être vigilant. Faut être vigilant malgré tout, parce qu'on n'est pas protégé juste parce qu'on est à l'autre bout du monde.
Oui, là, c'est bien, ça parlait plus volet législatif, ça me permet de pivoter justement ces éléments-là, parce que le cadre légal de la Nouvelle-Zélande est différent. Tu parles de l'appétit au risque, donc nécessairement, ça doit transparaître aussi dans les lois. Voir l'Australie qui est proche, qui doit aussi avoir une certaine influence légale sur l'élément que vous vivez, surtout que vous avez des ententes qui permettent justement le déplacement entre des gens plus facilement. Donc, dès lors, il doit avoir un certain effet un sur l'autre. Mais j'imagine que la culture légale, donc en cyber, doit être excessivement différente de ce que nous, on est habitués ici.
Exact, très différent. La première grande différence, c'est la protection des renseignements personnels. Clairement, on n'a pas l'équivalent d'une loi 25 ou du RGPD ici en Nouvelle-Zélande. Donc, je dirais pour des questions un petit peu aussi de faciliter les entreprises et l'économie, on a beaucoup, beaucoup moins de réglementation que ce qu'on retrouve par exemple en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Ben, premièrement, la Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus simple. Hein. On n'a pas d'État, on n'a pas de province, on n'a pas de complexité juridique comme ça. L'Europe, hein, c'est l'Union européenne, c'est un certain nombre d'États avec des réglementations locales et européennes. Le Canada, c'est plein de provinces. Les États-Unis, c'est différents États. Il y a cette complexité un petit peu. Ici, pas du tout. Une seule juridiction, il n'y a pas de province, etc. Donc, ça simplifie beaucoup les choses. Et je pense que la Nouvelle-Zélande veut garder aussi cette simplicité de créer des entreprises, innover, etc. C'est une valeur qui est très, très chère aussi ici. Là. Donc, créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, commencer à faire du business, c'est très, très simple. Je pense que dans les pays de l'OCDE, sur les 135 pays, pour créer une entreprise, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont dans le numéro 1 et numéro 2. Des fois, c'est la Nouvelle-Zélande, des fois, c'est Singapour, selon les classements. Mais en gros, il y a très, très peu de contraintes, très, très peu de barrières ici à créer une entreprise, innover, etc. Et très peu de réglementation aussi. C'est très libéral, en fait, comme économie. Comme c'est petit et qu'on veut faciliter la vie des gens. Même en Australie, il y a différents États. Hein. Je ne sais pas si tu le sais, Nicolas, en Australie, il y a même des États aussi, un peu comme aux États-Unis. Donc, en gros, c'est une très bonne chose. Mais d'un autre côté, encore une fois, il y a un revers de la médaille. C'est que il n'y a pas vraiment de loi efficace sur la protection des renseignements personnels. Donc ça veut dire qu'ici c'est assez laxiste même parfois. Donc on voit arriver des projets sur la vidéosurveillance, on voit arriver des différents projets où il y a très peu d'encadrement finalement, beaucoup moins d'encadrement sur le consentement, la collecte des renseignements personnels, la protection des renseignements personnels. Ici, les personnes partent un peu du principe que c'est pas un gros enjeu. Tu sais, après tout, on est une île, tout le monde se connaît. Qu'est-ce que j'ai à protéger, quoi ? J'ai pas grand-chose que j'ai envie de protéger. Alors ça donne un peu une fausse perception parce qu'il peut y avoir de la fraude, etc. Mais comme les processus et les systèmes sont plus simples, on voit pas beaucoup plus de fraude que ce qu'on verrait au Canada, par exemple. Clairement, en Nouvelle-Zélande, tu peux pas faire une fraude. De vol d'identité aussi facilement qu'on pourrait le voir au Canada. Moi, ça m'avait assez impressionné, hein, avec un numéro de NAS volé, une date de naissance, des informations d'identité, on peut facilement, enfin, il y a des pirates, des fraudeurs qui exploitent le système et qui arrivent à voler l'identité de quelqu'un assez facilement. Ici, en Nouvelle-Zélande, les systèmes sont un peu plus simples. Et il n'y a pas les mêmes vulnérabilités qu'on retrouve ailleurs aussi. Alors, il y a quand même du scam et de la fraude parce que les gens font énormément confiance. Ça explose. Les fraudes à l'investissement, le phishing, etc., c'est malheureusement, ça explose comme partout. Par contre, des vols d'identité suite à des vols de données, on voit beaucoup moins ça ici, du fait des processus et des systèmes qui sont peut-être un peu plus modernes aussi, je pense, et un peu plus efficaces. Donc, ils ne ressentent pas le besoin d'avoir des lois trop compliquées sur la protection des renseignements personnels. Et ça, ça m'inquiète un petit peu. Mais d'un autre côté, ça fait partie de la culture aussi qu'on a ici. Ouais. Il n'y a pas cet appétit-là des gens à protéger leurs renseignements personnels.
Ouais, mais c'est plus communautaire, c'est ça aussi. Puis on l'a vu un peu au Canada aussi, jusqu'à certains points. Tu parlais de « j'ai rien à cacher », ces éléments-là reviennent de temps en temps. Contrairement à des pays qui sont plus habitués à l'agression, comme l'Europe, par exemple, où c'est plus facile d'éveiller cette peur-là de se faire dérober des choses. Canada non plus, ouais. C'est un grand pays. On est quand même pas beaucoup. On est quoi, une fois et demie la grosseur de l'Australie en termes de population. C'est pas tant grand. Puis on se plaît bien là-dedans. Mais c'est intéressant de voir ces similitudes-là aussi, pas aussi bien, encore plus importantes, là. Mais cette confiance-là que les gens ont et amènent. Et cette simplicité-là, parce que nous, on a abandonné la simplicité légale. puis l'Europe encore ouais. moins. Là. Puis même les États-Unis non plus n'ont pas tellement de simplicité légale. Fait, c'est le fun de voir ça, comment ça se fait. Par curiosité, ça ressemble-tu à un système plus britannique en termes de common law ou on
ouais.
est dans un
système... Oui, ouais? Beaucoup plus britannique, oui, effectivement. Ouais. Alors, je ne suis pas expert de juridique, mais oui, ça ressemble beaucoup plus au système britannique. Donc au Québec, hein, il y a un système de droit français qui est en place. Ouais, c'est un peu ça. La culture aussi, ici, elle est moins judiciaire dans le sens qu'on voit moins de gens faire des procès. Par exemple, tu vois, moi-même, en vivant ici, je suis encore contacté par des firmes d'avocats au Canada qui me proposent une class action, tu sais, une action collective contre Apple, ou parce que j'ai acheté des produits au Canada, puis qu'il y a une action collective, etc. Ou je reçois des fois des notifications de data breach, tu vois, parce que j'ai vécu longtemps au Canada, etc. J'en reçois encore. Ici, on a moins ces notions-là. On a beaucoup moins ces notions de faire des procès, de faire des poursuites suite à des incidents. Les personnes vont essayer de corriger le problème, puis s'excuser, puis faire mieux. Mais il y a moins de suites légales. Après, c'est ça. C'est un petit peu la différence aussi ouais, dans le système juridique. Enfin, pas le système juridique, mais dans la culture plutôt. Donc, ouais, c'est ça.
Ouais, ben, le système juridique est quand même une représentation de la philosophie, de la culture. C'est pas, ça se vit pas, le système juridique ne vit pas dans un vase clos. Il est quand même une belle représentation. Donc, c'est logique que ça aille dans ce sens-là. On a fait un bon tour d'horizon, en tout cas pour moi, de l'écosystème, notamment Cyber, mais pas juste Cyber, de la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais discuter?
Oh, ben, je dirais, de façon très intéressante, il y a des ressources qui, je trouve, qui sont très bien en Nouvelle-Zélande au niveau cybersécurité. Donc, même si c'est un petit pays, il y a quand même des très bonnes ressources. Par exemple, tout ce qui est fait par le CERT NZ, là, le CERT de Nouvelle-Zélande, des cadres de référence comme le Critical 10, par exemple, c'est assez intéressant. L'Australie a Essential 8. Essential 8, pareil, c'est les 8 mesures essentielles. Je trouve que c'est des cadres de référence qui sont très pragmatiques, qui sont très, très intéressants. Ils font des très bonnes infographies aussi pour expliquer une attaque de spear phishing, par exemple, ce genre de choses. Je trouve que il y a des bonnes ressources à voir, notamment pour une PME qui trouve que les ressources disponibles au Canada et en Europe sont vraiment trop complexes pour eux. Regardez ce qui se fait du côté de Nouvelle-Zélande et Australie, c'est assez intéressant. Vu qu'on a des entreprises plus petites, je trouve que les contenus sont beaucoup plus adaptés à cette audience-là. Par exemple, il y a des initiatives qui se font que j'ai jamais vu ailleurs, comme par exemple le MFN, c'est le Malware Free Network. En gros, c'est n'importe quelle entreprise peut finalement souscrire à ça via son fournisseur d'accès Internet. Et en fait, il va y avoir du filtrage qui va être fait. Alors, ça peut être inquiétant ou rassurant, mais bon, le fournisseur d'accès va faire la firme qui gère la sécurité va utiliser ce réseau-là qui est fourni par le gouvernement pour faire du filtrage web ou du filtrage Internet pour bloquer des malwares, pour bloquer des noms de domaine, des IOCs assez précis, des indicateurs de compromission, des noms de domaine, des noms d'adresse IP connus comme faisant partie de réseaux de malware ou de botnet, etc. Donc, ils vont avoir un système de filtrage comme un grand firewall, mais pour protéger les gens. Donc, ça, c'est ouais, le Malware Free Network. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est sûr que le faire à l'échelle d'un pays comme le Canada ou les États-Unis, ça serait compliqué. Mais ici, ils l'ont fait à l'échelle de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Il y a aussi NetSafe également, je trouve, qui est une très bonne famille aussi sur Internet. NetSafe a des super ressources également. Donc regardez CertNZ, NetSafe. J'ai trouvé ça super intéressant aussi. Des solutions très pratico-pratiques aussi. Je vous donne un exemple, mettons, il suffit de configurer à la maison les DNS, les serveurs DNS de NetSafe. Quand on est en Nouvelle-Zélande, sur son routeur Wi-Fi ou sur le PC, le Mac ou la tablette de son enfant, puis automatiquement, boum, on bénéficie d'une protection d'un certain filtrage, juste avec les DNS de NetSafe. J'ai trouvé ça assez intéressant.
Oui,
donc voilà un petit peu les initiatives à retenir. Puis
C'est très intéressant. Mais merci de ce partage-là. Ça m'a énormément éclairé. J'espère que ça va peut-être intéresser d'autres personnes d'aller te rejoindre en Nouvelle-Zélande et justement de vivre cette expérience-là. Puis de contribuer aussi d'une façon à améliorer l'ensemble de l'écosystème parce qu'il y a quand même un retour à l'ensemble de la communauté mondiale aussi qui en est fait.
Oui, c'est ça. Exact.
Je te remercie énormément.